3, 2, 1.
Bonsoir, il est 18h, c'est Last Ride avec Doc Olivier. C'est parti.
Let's Ride en direct avec Doc Olivier, c'est maintenant. Pousse le volume à 11.
Yeah!
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est le Doc en direct sur Vinyl Time dans Last Ride, bien sûr. Bien le bonsoir à tout le monde, j'espère que vous avez passé un excellent dimanche, que vous avez profité du confinement pour réécouter, sortir vos CD, vos cassettes, vos 78 tours, 33 tours, 45 tours et tutti quanti. Nous on est super contents de faire cette émission ce soir, on aura plusieurs invités, donc on aura Corentin Charbonnier dans quelques instants qui va venir nous parler de son livre qui vient de sortir, qui s'appelle le French Metal Study. On va discuter avec lui de comment on fait une thèse autour du métal en règle générale. On aura bien sûr ce soir le retour du Perpignanais Jean-Michel Attia qui viendra nous conter ses choix du jour. Et nous aurons tout de suite, maintenant, immédiatement, Signer's Blood. On va écouter The Mirror. Nasson, le chanteur guitariste de Signer's Blood, sera en interview demain soir à 20h30 dans 213 Rock avec l'ami Arag Melodica. La semaine prochaine, on a une semaine de fou. On aura mardi soir Wolf of Man d'Accept. Mais on commence tout de suite avec notre ami Nasson, Signer's Blood, The Mirror, tout de suite, extrait de l'album Myro Star. C'est parti et on se retrouve juste après avec une nouveauté qui s'appelle Beverly Hills.
this is Beverly Kills. Listen to our new song from Iguana Mulata on Vinyl Times Classic Rock Radio.
C'était les Beverly Kills, ça vient de sortir, c'est bah voilà, c'est du bon hard rock comme on aime. On va ouvrir tout de suite la page French Metal Study, puisque Corentin Charbonnier nous a rejoint. On va parler donc de ce livre qui vient de sortir. C'est un livre où plusieurs personnes sont intervenues autour de notre musique qui nous est chère, des études universitaires, autour du métal en France. Bah, c'est toujours intéressant de discuter un petit peu de comment on bâtit un livre comme ça et comment on travaille dessus. En tout cas, on va poser toutes ces questions tout de suite à Corentin Charbonnier qui est avec moi. Corentin, bonsoir.
Bonsoir.
Eh ben écoute, merci d'avoir pris un petit peu de temps pour Vinyl Time, Last Ride, le doc, pour parler de ton bouquin, hein, voilà, qui vient de sortir. Alors c'est un bouquin fait par des passionnés de la musique, parce qu'on pourrait pas écrire un bouquin sur le métal sans être passionné quand même de musique et des gens. Alors comment est venue l'idée, Corentin, d'écrire ce livre à plusieurs pour le coup?
Bah écoute, c'est alors ça a commencé un peu en 2015. J'ai fini ma thèse sur le Hellfest en décembre 2015. Le Hellfest avait vraiment été aidant et avait relayé. Donc il y a eu beaucoup de demandes. J'ai monté une maison d'édition pour éditer le bouquin sur le Hellfest. Hein, donc pour décembre 2016. L'objectif, ça a été ensuite de traduire le bouquin. Donc en fait, on a réinvesti tous les bénéfices des ventes en français qui sont quand même ultra nombreuses pour une thèse. On est à pas loin de, je pense qu'on est entre 3500 et 4000 à l'heure actuelle.
D'accord.
Ça a permis l'édition en anglais. L'édition en anglais, bon, c'est plus léger, hein, mais c'était pour le rendre accessible. Puis sur la même logique, je m'étais dit à un moment, enfin, qu'on édite d'autres choses sur la musique métal, continuer ce qu'on a commencé avec le premier bouquin. Et du fait d'être dans les universités, à donner des cours maintenant dans une école de travail social, mais de continuer à être un peu acteur, j'ai été sollicité par plein d'étudiants en master, soit pour diriger des mémoires, soit pour répondre à des entretiens pour leurs mémoires sur les 5 dernières années. Puis une partie de ceux qui m'ont contacté, je pense pas en avoir oublié beaucoup à l'époque, je leur ai tous dit, mais c'est très bien qu'on édite. Et il y a 2 ans, j'ai relancé l'idée. Ils m'ont regardé avec des gros yeux en me disant « Mais non, t'es fou !» Je fais « Non, vos trucs sont bien, ça vaut le coup d'être édité, il n'y a pas à rougir par rapport aux docteurs qui sont dans le milieu, je fais « Il faut aller jusqu'à l'édition. » Et puis il y a un an, on a accentué le truc, je leur ai dit « Bon, on est 4-5, là, c'est parti, chacun fait un article résumé de son mémoire et on le coédite, on se fait un bouquin tous ensemble. »
D'accord.
« Ok. » Et puis en début d'année, on a accentué, il y a Émilie Salva, qui est docteur en sociaux, qui est une amie qui bosse sur Tours, donc avec qui on s'est dit, on coordonne le livre ensemble. J'ai appelé Julien, qui est un copain de longue date, qui était acteur de la scène et qui gère des merch, et qui est plutôt dans la biologie, qui est pareil, passionné et acteur. Je lui ai dit, vas-y, coordonne avec nous, il nous faut un regard un peu distancié. Puis après, les auteurs, ils ont tous des thématiques ultra pertinentes, ils sont 6. Pour 5 articles, il y en avait 2 qui avaient fait leur master ensemble, et puis ils ont tous fait un super boulot dans 20-25 pages de leur bouquin. Et donc on a condensé tous leurs écrits. Donc on a un article sur la scène métal en France, situation et perspective d'avenir par Pandora. On a Charan Sol, on a les acteurs de la scène métal et les institutions culturelles de Sam Moret, qui a plutôt travaillé sur les SMAC. Le matérialisme et la quête d'identité, l'ambivalence dans le métal underground par Aladdin Chambal. Le modèle festivalier en quête de renouveau par Olive Zombo. Et enfin, un article sur réussir à se démarquer au sein d'un secteur concurrentiel, l'expérience festivalière du Motocultor Festival par Pierre Agapi et Caroline Meunier. Puis après, je me suis permis d'en rajouter un que j'avais fait, qui est le début de la recherche qu'on a lancé il y a 2 ans avec le Hellfest, enfin il y a 1 an et quelques mois maintenant, on avait fait des Hellstats, on avait lancé un questionnaire massif avec 9000 réponses et on a en cours d'analyse. Donc le premier article sur l'enjeu de faire une recherche main dans la main avec un festival. On est légitime en tant que chercheur et on s'entend bien, donc ça permet quand même d'aller hyper loin dans les questions et les analyses. Le tout en 192 pages. On l'a sorti le 2 novembre, donc super date pour sortir un bouquin en librairie.
Oui, écoute, s'il y avait que les livres.
Voilà. C'est ça, déjà que la musique était touchée, voilà, on est tous au même point, mais voilà. Et puis si ça fonctionne, et on espère que ça fonctionnera, on fait un petit tirage à 500 exemplaires. Si ça fonctionne, on espère pouvoir réitérer. Là, pour l'instant, on est dans le flou artistique parce que les ventes sont très calmes du fait d'un confinement. Si le bouclat fonctionne et qu'on arrive à les vendre, dans 2 ans ou dans 1 an et demi, 2 ans, on remet ça avec des nouveaux étudiants. Puis voilà, histoire de donner à lire aussi à la communauté métal sur ce qui est leur échec, parce que on a envie de le partager en fait. Je crois qu'on a vraiment envie de partager, que ça reste pas des trucs d'universitaires dans un placard et qu'entre nous, quoi.
Oui, c'est de toute façon quand on est quand on écrit et qu'on est passionné de musique, je pense que le principal de la passion, c'est aussi de le partage en fait. Donc en invitant quelque part tous ces étudiants, est-ce que toi, à travers les écrits des différents étudiants, tu as découvert des choses qui t'avaient que tu n'avais pas vues ou que tu ne sentais pas à travers les écrits des uns et des autres?
Alors avec le recul, c'est un peu compliqué puisqu'on les a tellement lus et relus, je t'avoue. Parce que c'est pas facile pour eux. Je leur ai dit, vos mémoires font 80 à 150 pages, vous me le condensez en 20-25 pages. Donc je les ai aidés, mes collègues aussi sur la direction. Voilà. Donc au départ, oui, il y avait des trucs intéressants. Enfin, il y a des choses qu'on pouvait penser, qu'on savait, on avait déjà des idées dessus, mais qui ont été repoussées. Moi, j'ai bien aimé l'approche que je trouvais très fraîche de Pandora sur l'analyse du secteur métal et l'évolution de la scène. Après, Sam, je l'avais accompagné, donc, mais au moment où je l'avais accompagné, ce qui était intéressant, c'est qu'elle travaillait sur le cas de plusieurs SMAC, dont la plupart sont dans l'agglo parisienne. Alors, Sam Miltemple, on les connaît parce que si on suit un peu les affiches, il y a quand même souvent des concerts chez eux. Mais je connaissais pas toutes les SMAC et les entretiens sont relativement intéressants. Aladdin, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est ce rapport à la consommation dans le Metal Underground, parce qu'effectivement, bon, logiquement, le Metal Underground, c'est Underground, et en fait, non, bah, aujourd'hui, il y a quand même du marketing, même dans le Black Metal. Après, Olive, c'est une rencontre très tardive. On s'est rencontrés en début d'année, alors qu'on avait déjà lancé le bouquin. Elle était en musicologie à Paris et elle faisait une étude comparative des festivals. Et alors, elle m'avait contacté pour parler du Hellfest. Et ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est qu'elle a fait l'évolution en fait de ce qu'on appelle le modèle festivalier. Depuis quand ça existe les festivals en Europe et puis comment ça se développe. Et là, je me suis dit, mais c'est parfait, c'est pile l'article qui nous manquait pour faire le lien avec le dernier, qui était sur l'expérience festivalière et le cas du Motoculteur Festival, où bah là, c'est pareil, j'avais suivi le dossier, puisqu'il y a 3 ans, j'avais fait une enquête juste derrière eux, en fait. Ils l'ont fait il y a 3 ans et demi, et moi, il y a 2 ans, j'ai été appelé par le Motoculteur pour refaire des stats, pour approfondir ce qu'eux avaient commencé à faire. Donc voilà, donc oui, il y a toujours des choses hyper intéressantes. Après, moi, je suis plutôt sur une analyse du public, et eux, ils sont sur une analyse plutôt concurrentielle de l'offre et de la demande sur les festivals, donc c'est intéressant d'avoir un autre regard. C'est aussi l'intérêt du bouquin, c'est qu'en fait, bah, tu passes par des sociologues, des anthropologues, du marketing, des masters culturels, de la musicologie. Voilà, il y a un peu tous les domaines, et c'est ce qui me plaisait, parce que les French Metal Studies, l'appellation études sur le métal, les Metal Studies, en fait, il y a plein de domaines. Et là, on en a 4 différents, c'était déjà bien pour commencer.
Voilà. Bah exactement. Bah en tout cas, moi, j'invite tout le monde à aller mettre un clic sur la page de Corentin, un minima, puisqu'il y a une boutique en ligne où vous pouvez trouver facilement le livre aujourd'hui, même si on ne peut pas les récupérer avec le click and connect, mais on a moyen quand même de cliquer. Alors, sur la boutique en ligne de Corentin quand même.
Alors logiquement, pour ceux qui n'ont pas assez confiance sur le site web, même si c'est moi qui le gère directement, il n'y a pas d'intermédiaire, on l'a réussi à le mettre, il est en vente, hein, pour les librairies indépendantes.
D'accord, important.
Parce que bah voilà, c'est important de les soutenir et de parler d'eux en premier. Et après, je l'ai également mis sur les grosses plateformes parce qu'on ne peut pas passer à côté.
D'accord.
L'expérience du premier livre m'a prouvé que Fnac, c'est 60% des ventes, quoi, en France encore aujourd'hui, donc c'est pas inintéressant de le mettre chez eux.
D'accord. Bah écoute, j'espère que dans les prochains livres, on parlera de tous les gens qui travaillent autour du monde de la musique, comme les web radios par exemple, ça pourrait être un bon sujet. Des passionnés qui de regarder un peu ce qui se fait dans les passionnés qui font de la web radio, dans les underground aussi, tous les maisons de disques qui sont plutôt des petits labels ou des petits distributeurs qui font vivre aussi tout l'underground. Je pense qu'il y a des sujets qui pourraient être hyper intéressants dans ce domaine-là aussi pour aller plus loin que les gros festivals. Je ne sais pas si c'est une idée qui pourrait germer en toi, Corentin, ou dans les étudiants autour de toi.
Alors, je l'ai déjà abordé sur la thèse sur le Hellfest, parce qu'en fait, il y avait cette distance, il y a plein de petits médias au départ du Hellfest, même s'ils sont moins nombreux aujourd'hui. On le raborde un petit peu ici, mais moi, je suis vraiment sur l'étude du festivalier. Il y a des étudiants qui l'abordent. Après, oui, concrètement, c'est hyper important. On en parlait encore hier sur une conférence à Wenning, on ne peut pas se faire sans tous les acteurs bénévoles qui sont dans ce milieu. Franchement, moi j'en vis pas, hein. Je le fais avec plaisir et je réinvestis, donc c'est mon choix. Mais il y a plein d'acteurs dans le milieu qui sont photographes bénévoles, des magazines bénévoles, des webzines bénévoles, des radios, des web radios. Je suis sur une radio locale associative, pareil. Je veux dire, on donne un temps fou à cette musique parce qu'elle nous plaît, on a envie qu'elle continue d'exister.
Exactement.
Elle a 50 ans cette année. Bon, ouais, je pense qu'on va être là pour quelques années, mais effectivement, l'analyse des acteurs est hyper pertinente parce que on peut pas faire autrement. Puis l'étude des petits festivals, oui, c'est en cours. Je reste quand même main dans la main avec tous les festivals où j'ai pu intervenir. Le Metal Culture dans la Creuse. Où j'ai vraiment un peu laissé le cœur là-bas parce que je trouve que le projet était génial. Le Tyrant Fest qui a pas pu avoir lieu et qui aurait dû avoir lieu le week-end, je crois que c'était le week-end prochain. Enfin bon, tous ces petits festivals-là, c'est des petites pépites, il y en a plein en France. Autant je travaille sur les gros pour faire du quanti, autant les petits, non, je passe à côté. C'est un plaisir. Et puis on espère qu'ils auront lieu l'année prochaine. Je pense qu'on est tous pareils.
Bah exactement. Écoute, on croise les doigts surtout. On va juste parler un petit peu musique quand même, Corentin, parce que bon, tu as aidé tes étudiants à faire ce livre. Tu es toi-même, tu écris beaucoup de choses. Mais quand on écrit aussi, on écoute beaucoup de choses. Alors quels sont tes goûts musicaux en fait?
Alors. Si tu veux du teasing, je peux t'annoncer un truc qui est très drôle. J'ai passé l'été, une fois que le bouquin était fini, juste avant de l'envoyer en impression, avec un spectacle pour une école de musique à côté de Clermont.
D'accord.
Pour la commune de Combrailles, qui va faire un spectacle avec les enfants de musique classique et métal. Donc là, je me suis attaqué à pas mal de trucs, de groupes de métal où il y avait du classique, Flèche de l'Apocalypse, Septic Flèche, en passant par les classiques de Metallica et autre chose. Mmh. Donc voilà. Donc il y a ça. Après, j'écoute vraiment tout. Bah le truc, c'est que je suis comme toi. J'ai une émission radio, donc
il faut écouter.
On écoute tout ce qui arrive.
Ouais, exactement.
Il y a tellement exactement. De petits groupes.
Exactement. Et bah écoute, Corentin, on va dire à nos auditeurs que donc le livre est dispo, il fait une vingtaine d'euros, il est commandable sur toutes les plateformes. Vous pouvez passer, je vous mettrai le lien de toute façon dans le podcast pour aller voir les travaux de Corentin, parce qu'il y a ce livre qui vient de sortir, il y a aussi le livre autour du Hellfest qui est toujours dispo, si je ne m'abuse, en étant passé vite fait sur la page tout à l'heure. Donc voilà, et puis comme j'aime bien faire travailler un petit peu mes invités, j'ai demandé quand même à Corentin un titre à mettre pour finir l'interview. Donc tu m'as proposé Kamala, le morceau s'appelle Wake Up, et c'est extrait de l'album Eyes of Creation. Alors pourquoi ce choix, Corentin?
Alors Kamala, c'est une rencontre en 2016, c'est un groupe de métal brésilien qui cherchait à jouer en France. On me les a envoyés pour que je les aide à organiser leur première tournée. Donc ils sont venus en pension à la maison plusieurs fois, plusieurs années de suite. Ils reviennent à peu près par cette année, ils sont venus tous les ans.
D'accord.
Et puis au point de jouer un titre avec eux pour l'avant-dernier album, ils avaient besoin d'une harpe celtique au départ, donc on leur a joué un peu de harpe celtique pour l'album. Donc voilà, c'est devenu la famille au Brésil qui vient tous les deux ans en vacances à la maison pour un mois pour faire des tournées.
Bah écoute, voilà, c'est ça aussi, les belles rencontres autour de la musique et c'est pour ça qu'on vit ces belles passions, et se faire partager du groupe brésilien avec du français, c'est quand même pas mal. Et on connaît quelques bons groupes brésiliens, hein. On parlera pas d'Angra, de Sepultura et compagnie, hein, bien sûr. Enfin voilà, on va découvrir Kamala ce soir. En tout cas, Corentin, écoute, merci de nous avoir parlé de ce livre. Moi, ça m'intéresse vraiment, donc je vais pas tarder à le commander pour pouvoir aller lire ce qui se dit. Et puis j'espère que nos auditeurs vont en faire de même ce soir, et ils commanderont rapidement le French Metal Study. En tout cas, Corentin, je te remercie. Et puis nous, on va continuer tout de suite donc avec ce Kamala, Eyes of Creation. Et on va écouter tout de suite le morceau qui s'appelle Wake Up. Corentin, une excellente soirée et encore merci. Et
merci
à très bientôt.
Merci, bonne soirée.
To change your life. times are always the worst. You'll never have time enough. You're always running, but you can't get out of the same place. What do you do every day to make the difference? What do you do every day to change your life? And what do you do every day to make the difference? And what do you do every day to change your life?
Voilà, c'était Kamala, c'était l'album Eyes of Creation, le choix de Corentin Charbonnier. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa page, aller découvrir bien sûr ce livre. Voilà, je pense que c'est hyper intéressant. Dans quelques instants, on va ouvrir la page Jean-Michel Attia, si j'arrive à l'appeler. Et puis on va écouter plein de bons titres avec Jean-Michel. Mais pour faire une petite transition et une respiration le temps que Jean-Michel nous rejoigne, on va écouter un extrait du Electric Mary, le Electric Mary No. 3. On va écouter Nobody's Perfect tout de suite dans Last Ride avec le Doc. C'est parti.
I wanna live on a mountain, I'm gonna hit
Bah, ça fait toujours du bien, Electric Marie, franchement, il n'y a rien acheté à chaque fois. Hein. Alors c'était extrait du Electric Marie No. 3, on a écouté Nobody's Perfect, on n'est jamais tous parfaits, mais en tout cas on tente de l'être. Voilà, c'est notre leitmotiv en 2020, on essaye d'être parfait, voilà. Mais bon, on y arrivera peut-être un jour. Hein. En tout cas, j'ai monsieur Jean-Michel Attia qui nous avait fait faux bond la semaine dernière, mais pour une bonne cause, qui est avec nous oui. ce soir. Jean-Michel Attia de Perpignan, bonjour.
Salut Olivier, salut à tous. Et oui, en direct de pas très loin de Toreil, les amateurs du Pyrénéen et du ce festival qui est assez hors norme, ça où je suis.
D'accord.
Et c'est comme un pèlerinage, tu vois. C'est le Pyrénéen, c'est un pèlerinage et ça m'a tellement fait de l'effet que j'ai décidé d'y habiter.
D'accord, voilà. Bah écoute, tu as fait le pèlerinage femme, enfant, vinyle, CD, 45 tours, 78 ouais, tours, 33 tours. Monde, là voilà, c'est quand même suivi, pas, ouais, c'est quand même pas commun quoi. Hein.
Ouais, c'est clair.
Surtout au niveau des 78 tours.
Oui, du hard. Ouais, il y en a plus beaucoup maintenant. Hein. C'est pas facile à trouver. Pas facile.
Hein. Eh ben écoute, en tout cas, c'est un grand plaisir de t'avoir avec nous ce soir dans Last Ride avec, avec moi, hein, bien sûr. On n'a pas échangé la semaine dernière, alors j'étais un peu triste parce qu'il y avait plein de belles choses la semaine dernière. Bon, j'en ai remis quand même quelques bonnes, hein, quand même, cette semaine. Il y a quand même quelques Merci. Bons trucs. Il y a le Ace of Spades des 40 ans, il y a le Paranoid qui est sorti aussi, ce coffret de luxe des 50 ans. Enfin, il y a, voilà, on est confinés, mais on a quand même des chouettes trucs qui sont sortis là, qui nous font plaisir. Le coffret Sin Lizzy, on n'en a pas parlé, mais on avait dit qu'on en parlerait un petit peu, et c'est aussi voilà. Et puis je crois, Jean-Michel, avant qu'on lance la sélection des titres, qu'on a dit que pour la sortie du UFO Live, les 8 CD qui vont ressortir, qu'on se ferait un dimanche spécial UFO. Alors, je crois qu'on peut l'annoncer.
Absolument.
Là.
Oui, on peut y aller hein, sans problème. Ça sera une belle soirée. Il y a tellement de belles choses à écouter et à dire sur ce groupe à l'occasion de ce live. C'est prometteur. Vivement.
Vivement, exactement. Eh ben écoute, on va commencer ta première sélection de titres. Alors, on va pas se mentir, on a fait que du truc lourd, que des bons trucs, on s'est fait plaisir. On va tout de suite commencer avec les 6 minutes du Blitzkrieg. Cet album, il est fantastique, A Time of Change. Et tu as voulu écouter Ragnarok / Inferno. Alors, dis-moi tout.
Eh ben, je te dis tout, alors.
Vas-y.
C'est vrai que c'est le premier morceau de Blitzkrieg que j'ai véritablement découvert sur la première compilation de Neat Records qui s'appelait Lead White, qui était uniquement dispo en cassette. Et c'est vrai que il y avait les autres groupes et puis il y avait ce titre. Voilà, il y avait ce titre, et derrière, quand tu suis le début de carrière du groupe,
ouais.
Bah, tu sais qu'il n'y a pas eu tellement mieux. Bien sûr qu'il y a la chanson Blitzkrieg qui est devenue célèbre
par un autre groupe.
Grâce à, voilà, grâce à qui on sait. C'est un groupe qui aurait pu certainement faire de belles choses. Je crois que le chanteur du groupe qu'on connaît, qui est toujours actif aujourd'hui, a voulu faire trop de choses en même temps. Et finalement, ben, c'est Blitzkrieg qui en a payé le prix. C'est bien dommage.
Oui, on parle de Brian Ross, hein, bien sûr.
Voilà, on parle de Brian Ross, sachant que la version actuelle du groupe elle a le mérite d'exister, mais n'a pas le génie des fondateurs en termes de compo. Il nous reste donc, ben, pour l'histoire, le morceau Inferno, l'album qui a été enregistré un peu trop tard. Et qui a comblé quand même un vide, hein, parce qu'on attendait tous ce premier album de Blitzkrieg. Et puis derrière, on a des albums qui sont sortis, qui ont recyclé bien souvent les anciens morceaux, qui ont réenregistré des anciens morceaux. Mmh. Mais c'est comme ça, c'est un peu à l'image de la New Wave British Heavy Metal, où tu as des groupes qui étaient prometteurs et qui n'ont pas réussi, puis tu as ceux qui ont eu une petite carrière, comme Maiden, Saxon et quelques autres.
Def Leppard.
Ouais. Voilà, ouais, des petits trucs, quoi.
Des petits. Ouais, ouais, bon, des bah écoutez, on va se faire plaisir tout de suite, on va réécouter ce Ragnarok / Inferno Blitzkrieg tout de suite, on prend 6 minutes de plaisir. Et puis juste derrière, on s'attaque à Tiger of Pantang et on se fait, pour terminer, 2 lives. Il y aura du Priest et du Motorhead, mais on écoute tout de suite le Blitzkrieg. Ça, c'est un coup de Brian Ross, hein, il a dit, ça y est. Hein. Bon, on parle pas de Satan hein, ce soir, donc on est dans Blitzkrieg, on écoute Ragnarok et Inferno tout de suite. Le premier choix de Jean-Michel Attia, c'est parti. Faites-vous plaisir, les amis.
Thank you.
Voilà, c'était le Blitzkrieg, A Time of Change. C'était j'ai ressorti le disque qui a servi pour les 30e anniversaire de A Time of Change. Ça nous rajeunit pas. Mais de toute façon, cette semaine, il y a toujours que des disques avec des anniversaires. Hein. Les 30 ans du Blitzkrieg, les 40 ans du Ace of Spades, les 50 ans du Paranoid. Voilà, on est en plein dedans. Et effectivement, c'était pas la version originale, c'était la version réenregistrée. Je crois que c'était en 2015, je crois, ou 2018, je sais plus, dans ces eaux-là. Ouais. C'était sorti chez Target Records, nos amis de chez Mighty Records, qui ont ressorti un nombre incalculable de Blitzkrieg. Et d'ailleurs, je crois que tous les derniers albums de Blitzkrieg, celui de 2018 notamment, il est chez Target Records via Mighty Music ou un truc comme ça. Je crois que c'est le label de Blitzkrieg actuellement, si je ne me trompe. Mais si je me trompe, vous allez me le dire tout de suite en direct. Donc voilà, mais je pense que j'ai tout bon. Je pense que j'ai tout bon. Voilà. En tout cas, Jean-Michel, merci d'avoir choisi ce titre. Ça fait du bien de réécouter Blitzkrieg quand même, hein, parce que c'est quand même une époque. Voilà, c'est des grands disques, des belles pochettes. Voilà, Blitzkrieg, ils avaient quand même des très belles pochettes. Hein, faut pas le louper. Ils avaient aussi une présentation qui nous permettait de se dire ce groupe aurait dû mieux faire.
Clairement.
Parce qu'ils avaient la qualité au démarrage quand même.
Ouais. Le problème, c'est que les deux guitaristes compositeurs ont laissé tomber la musique très vite. À partir de là, la magie s'est arrêtée avec eux.
Ouais, et puis le fait que Brian Ross, entre guillemets, fasse beaucoup de choses, fait pas aussi. Oui. Quand ça apporte quelque chose, on peut dire oui, mais quand on se retrouve à être embarqué dans 4-5 projets, on y laisse à un moment donné quelques plumes, dira-t-on.
C'est clair.
Les plumes du Blitzkrieg.
On est d'accord. On est bien d'accord.
Bon, là, on va parler d'un autre sujet, parce que ce groupe-là, il nous parle hein, quand même. On va parler de Tiger of Pantang, qui sera normalement en concert l'année prochaine, avec Cobb et avec notre ami Chris Garrel, Dreamcatcher, à Paris, notamment. Il y a quelques dates un petit peu partout. Voilà, c'est une très, très belle tournée. C'est au mois d'avril 2021, au Glazart à Paris. Voilà, j'espère que ça se fera, et tu as voulu donc réécouter un morceau qui est hyper sympa, qui est un morceau très court pour une fois de Tiger of Pantang, oui. C'est extrait du Wildcat, Don't Touch Me There, qui est quand même un morceau un tout petit peu différent dans la carrière de Tiger of Pantang, je trouve. Ça sonne pas tout à fait Tiger, et c'est assez rapide comme morceau pour le coup.
Oui, c'est le côté punk qui pouvait illustrer les débuts du groupe. Le groupe était à cheval vraiment entre le metal et enfin le hard et le punk. C'est pour ça que ce premier album Wildcat est si riche et me tient vraiment à cœur, parce qu'il y a ce mélange d'influences qui rend la musique brute et incisive, sans calcul particulier. Il y a des riffs qui partent, la voix un peu rock, on va dire rock RAU, hein, on est d'accord. Ouais.
Roots même, on dirait. Jazz même roots.
Là, c'est ça, rock et roots. Ouais. Donc du coup, ça donne un mélange qui est détonnant. Je sais qu'il y en a qui aiment pas, mais moi, en tout cas, ce disque, il a une place à part. D'abord par sa pochette, je me souviendrai toujours quand je l'ai vu à la Fnac. Il y avait ce disque-là, il y avait tous les autres en vérité, donc tu étais obligé de l'acheter rien que pour la pochette. Et après, il y a ces morceaux qui sont tous différents les uns des autres. Et c'est un album qui est totalement à part de la discographie du groupe, on est bien d'accord. C'est vrai. Puisque derrière, on a basculé sur un hard rock un peu plus classique.
Ouais, classique.
Classique et classieux, voilà. Donc, du coup, moi, je suis très attaché à ces petits morceaux un peu simplistes, mais dans le bon sens, et très punk dans l'esprit, qui font du bien et qui résument là aussi... parfaitement le début des années 80.
Exactement. Bah écoute, ça me rappelle aussi les débuts de Def Leppard avec leur premier album où c'était vraiment plus roots, plus fort, plus punk. C'est voilà, il y a beaucoup de cette période de la new wave of British heavy metal. Les premiers morceaux, les premiers albums dans les années 80-81 de ceux qui ont sorti 79-80-81 d'ailleurs, ils sont très roots.
Oui.
Et il y avait quelque chose à l'époque entre la fin du punk, le début du la new exactement. Wave, du hard rock, et on sent ce mélange, notamment sur ce morceau. C'est exactement ça en tout cas.
Oui, tout à fait. C'était vachement excitant ce mélange. Après, les normes sont arrivées, les normes du marché sont arrivées. C'est comme ça, hein, il fallait bien en passer par là. Mais il y a une période, là, un espace spatio-temporel où il y a quelques disques qui sortent de nulle part et qui restent maintenant des classiques.
Exactement. Bah écoute, on va tout de suite écouter donc extrait du Wildcat, le Don't Touch Misère, Limit Punk. Ça fait du bien, c'est le deuxième choix de Jean-Michel. C'est parti, et on se retrouve après pour les lives, parce qu'on a besoin de lives.
Oui, plus que jamais.
Don't Touch Misère, Tigers of Pantang. Donc on rappelle, ils seront en concert normalement l'année prochaine avec Cobb et Dreamcatcher. On croise les doigts, on espère qu'on pourra aller voir cette magnifique affiche à Paris et un petit peu partout. Alors pas l'affiche avec Dreamcatcher, mais l'affiche avec Dreamcatcher à Paris. Et puis si vous pouvez aller voir Tiger of Pantang quelque part, notamment au Sous Trooper, puisqu'il devrait être au Sous Trooper, si je ne m'abuse, mais
absolument.
Sébastien va nous le dire tout de suite, mais il devrait être au Sous Trooper, donc on espère qu'on les reverra. Et puis Cobb, c'est surtout sympa à aller voir, et voilà. Et donc là maintenant, nous allons ouvrir la page live, parce qu'on a toujours besoin de live, et on va mettre carrément deux monuments, parce qu'on s'est dit avec Jean-Michel, on peut pas faire une émission sans mettre deux monuments, donc on va mettre du côté Jean-Michel, dans le coin rouge, Judas Priest, et du côté d'Olivier, dans le coin bleu, on a prévu le Motorhead We Are The Road Crew. Voilà, comme ça.
Ça va chier.
Voilà,
ça va
on chier. A dit les gars, ce soir, voilà, on va pas non plus. Hein, voilà, On s'est dit, on va d'abord parler et puis on discutera demain, hein, voilà.
C'est un peu ça.
Voilà. Donc on s'est dit avec Jean-Michel, un petit Star Breaker, est-ce que ça vous tenterait? On s'est dit, ouais, bah oui, pourquoi pas, hein, c'est quand même un bon morceau. On va écouter cet extrait de Judas Priest, donc c'est le Unleashed in the East. On va pas discuter s'il a été enregistré, réenregistré, remasterisé, repassé par la boîte aux lettres et ainsi de suite. On prend notre plaisir, hein, voilà. Alors pourquoi tu as voulu réécouter Star Breaker? C'était pour faire plaisir à JC ou te faire plaisir qu'à toi en fait?
Aussi, c'était surtout pour rappeler que Judas Priest a une histoire avant British Steel, avant le live même au Japon. Il y a de super morceaux heavy qui ont pas tellement été après rejoués par le groupe et je trouve ça bien dommage. Et c'est en fait en préparant mon déménagement, c'est tout con, hein, donc j'ai refait un peu le tour de la collection, j'ai ressorti des maxis. Et j'ai ressorti ce maxi où il y avait cette version live de Starbreaker. Et quand j'ai regardé le vinyle, j'ai vu que je l'avais écouté bien plus de 10 000 fois à peu près. au moins 10 000 fois. Et c'est un morceau, c'est toujours pareil, hein, qui te rappelle de super souvenirs. Et quand tu remets les choses dans le contexte, tu sais pas à l'époque que le Priest allait devenir ce qu'il est devenu. Donc tu l'achètes au moment où il sort, tu l'écoutes au moment où il sort, et là tu prends le plaisir sans calculer. Et quand je remets ce morceau aujourd'hui, ça me fait toujours le même effet. C'est pas forcément le meilleur titre du groupe.
Oui, c'est clair. Mais en vérité, c'est un super morceau quand même. Hein.
Ouais, on s'en fout. Hein. C'est, ouais. voilà, il est joué avec conviction par un groupe qui a faim, qui veut en découdre, et c'est bien ça qui compte. Hein.
Exactement. Bah écoute, on va écouter le Starbreaker. Donc on me signale aussi que au Sous Trooper, en plus de Tiger of Pantang, il y aura bien sûr Angel Wish et Trespass. Oui. Sébastien, c'est clair que de toute façon, on sera là quoi qu'il arrive et on sera là pour écouter tous ces bons groupes chez toi. Il y a aucun sujet. Voilà, on y sera la bonne humeur qui nous caractérise et on va d'abord bien s'écouter. Sûr. Un bon moment et une bonne tranche de Judas Priest. On écoute tout de suite le Star Breaker. On se retrouve juste après pour vous souhaiter une excellente semaine avec le Motorhead We Are the Road Crew, parce qu'on est tous des Road Crew. Mais d'abord, Judas Priest, Star Breaker. Stop, break, check, y'all. Judas Priest.
Starbreaker.
Eh, franchement, moi, bravo Jean-Michel, ça a fait du bien. Je pense que tout le monde est content, et tout le monde est content d'avoir écouté ce titre. En tout cas, merci de ce choix. En,
écoute,
ça a été, waouh, ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait du bien, les cris de Rob Halford.
Oui.
Voilà. Starbreaker. Voilà, c'est dit, tout est fait.
Tu pourrais le remplacer, hein, assez facilement d'ailleurs.
Ouais, oui, bah écoute, j'ai une photo de lui derrière, là, je sais pas si vous la voyez, mais voilà, je l'ai rencontré quand j'étais un jeune homme. Voilà, c'était pas le même Rob Halford à l'époque. Voilà, c'était
pas le même belle... Olivier Lefebvre. Non,
ah,
plus,
non. Ah non, ah, ça reste une belle rencontre et ça reste un moment inoubliable, hein, parce qu'il est d'une classe infernale. Et, oui. Et des gens de cette stature être aussi sympas et abordables, franchement, chapeau bas à Monsieur Halford. Même si maintenant il fait beaucoup de t-shirts avec des chats, il va essayer de te concurrencer, je pense. Mais, mais pour le coup, ça reste quand même, bah, ça reste le Metal God, quoi. Il n'y a pas de sujet.
Oui, c'est lui.
Et
c'est
j'ai hâte de, tiens, en parlant de bouquins, puisqu'on avait tout à l'heure, pour ceux qui rejoignent la fin de l'émission, on avait Corentin Charbonnier qui nous parlait de son livre qui vient de sortir autour du métal en règle générale. Moi, j'ai hâte, j'espère que le livre de Rob Halford qui vient de sortir sera traduit, comme a été traduit le bouquin de Bruce Dickinson, pour pouvoir lire plus facilement, on va dire, cette biographie du Metal God. Et je pense qu'il va y avoir des choses intéressantes à découvrir dans ce livre. Voilà, j'espère qu'il sera traduit. Voilà. Eh ben écoute, mis une toute petite question pour finir cette émission sur le live Facebook, oui. S'il fonctionne toujours. Hein. Pensez-vous que nous aurons un nouveau CD de Judas Priest avec Glenn comme compositeur? Alors j'ai mis oui, non. Et la dernière, c'est avec l'aide de K.K. Downing. Wow. Ouais. Lâchez-vous les amis, lâchez-vous, vous pouvez y aller. Répondez, répondez. En tout cas, ça a été un très très grand plaisir d'être avec vous ce soir. Jean-Michel, ça a été un très très grand plaisir d'avoir de tes nouvelles et de participer avec Corentin et toi à cette émission. On va terminer donc avec Motorhead, We Are The Road Crew. Ça vient de sortir dans ce magnifique coffret qui est arrivé, cette deluxe édition du Ace of Spades qui a 40 ans, les amis, 40 ans aujourd'hui. C'était sorti un 8 novembre 1970, 40 ans, oui, c'est ça. Si je me trompe
70,
pas.
70, c'est sûr.
80 80, pardon. Voilà.
Voilà, ah, je préfère ça. Ouais.
On va pas dire que je travaille en banque, hein, parce qu'ils vont pas me croire. Enfin, voilà. Donc, 40 ans, voilà. Et puis, n'oubliez pas, donc, cette semaine, on a beaucoup d'interviews. On commence donc lundi avec Nyzen, le guitariste-chanteur de Signer's Blood. C'est vraiment une très, très belle découverte. Et mardi, Wolf Hoffmann d'Accept sera en direct dans 213 Rock avec Arag Melodica. Alors, avoir Wolf Hoffmann juste après Phil Campbell sur Vinyl Time, vous pouvez pas savoir à quel point je suis aux anges et content qu'on soit arrivé avec Vinyl Time à avoir ces grands artistes qui viennent nous parler de leur nouveau disque, pour le coup. Phil Campbell, c'est avec ses fils, hein, Phil Campbell et The Bastard Songs. Et bien sûr, Accept, avec le nouvel Accept, hein, qui reste... bon, voilà. Tiens, on peut en parler deux secondes, si vous voulez, avec Jean-Michel. Bon, il y a eu deux titres qui sont sortis. Le premier n'était pas top top. Alors, le deuxième, To Mean To Die, il est quand même intéressant. Il est un peu plus dans la veine de ce qu'est faire Accept. Je ne sais pas si tu partages ça.
Ouais, Jean-Michel. Complètement. Autant j'ai pas du tout été convaincu par le premier extrait, autant ce morceau-là, bon, je l'ai écouté une fois, puis une deuxième fois, une troisième fois, et au final, après, c'était la gentille battle avec Sébastien là, sur le sujet.
Oui.
Mais c'est vrai que dans ce style-là, dans ce créneau-là, je sais pas, moi, si j'ai écouté quelque chose d'aussi efficace, je dis pas novateur, hein, parce qu'on parle d'Accept, hein, on parle pas de Pink Floyd, oui. Mais dans ce style-là, bah, franchement, il y a pas grand-chose à dire. Alors, on sait maintenant que Accept sortira pas des albums comme Restless and Wild et Breaker, ça c'est clair et net. Mais on peut espérer quand même 2, 3, 4 chansons de ce calibre-là, et on sera tous contents de les avoir.
Bah écoute, voilà. On va attendre d'avoir mis les deux oreilles sur tous les titres, hein, parce que pour l'instant on en a eu que deux, donc un qui était moyen, le deuxième a l'air voilà, franchement dans la veine de ce que c'est Fair Accept, espérons qu'il y en ait plusieurs dans le même style. De toute façon, bah, si vous avez le temps, vous nous envoyez une question sur la page Vinyl Time, si vous voulez qu'on pose une question à Wolf Hoffman mardi, c'est le moment, vous pouvez y aller, hein, vous balancez vos questions, hein. et puis on pourra lui transmettre donc mardi, donc il sera en direct sur Vinyl Time dans 213 Rock avec l'ami Arag. C'est un très grand plaisir d'avoir Wolf Hoffman qui va nous raconter comment a évolué le groupe aujourd'hui et comment on joue à 6 et comment on reste au devant de la scène quand même, parce que ça fait très longtemps qu'Accept tourne depuis la dernière mouture qui était la remise en route, qui date de 2005. Ça fait 15 ans quand même qu'ils sont repartis et
ça fait 15 ans mine de rien,
voilà, qui sont revenus, qui se sont reséparés et puis qui sont voilà, ça tourne un peu, mais à voir quoi. En tout cas, on va terminer l'émission avec We Are The Road Crew, alors live au White Lie Hall de Belfast, en 23 décembre. Eh ben, on va se faire plaisir et on écoute We Are The Road Crew, parce que je pense qu'on est tous des road crew et on a tous envie d'aller refaire du concert et du festival.
Oui.
Monsieur Jean-Michel, merci.
Merci à toi, merci à tous.
Une bonne soirée et prochaine. Nous on termine l'émission donc avec We Are The Road Crew.
Road Crew.
Yeah. Stinks past you, another tube of super glue, another border to get through.